Le casting du sommet de Rio est attrayant, mais le scénario risque de laisser les spectateurs sur leur faim. 64 chefs d'État, 46 chefs de gouvernement.
1992, le sommet de la Terre des Nations Unies à Rio.
Hello, I'm Severin Suzuki, speaking for ECHO, the environmental.
Le dernier jour des conférences, une activiste canadienne de 12 ans obtient un temps de parole et elle balance.
Do not forget why you are attending these conferences.
N'oubliez pas pourquoi vous assistez à ces conférences.
You grown up say you love us.
Vous nous dites que vous nous aimez.
But I challenge you.
Mais je vous mets au défi.
Please,
s'il vous plaît.
Make your actions reflect your words.
Que vos actes reflètent vos mots.
Thank you.
Trois décennies plus tard, en marge d'un autre sommet pour la planète, la COP26, une autre jeune activiste, Greta Thunberg, commente ses 30 années de politique climatique.
There is no planet B, there is no planet blah, 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 blah.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous, les mouches.
Après nous les mouches, c'est une expression belge. Un peu dégoûtante, un peu film d'horreur. Celui qui dit « après moi les mouches » dit qu'il s'en fiche en fait de ce qui vient après. Le climat, les suivants. Ce podcast va écouter les suivants. Les jeunes Européens qui devront gérer la Terre, notre cocon qui prend l'eau. Cet épisode va parler de la politique et du regard que lui portent les jeunes activistes pour le climat. Pour réagir plus vite aux urgences de la planète, est-ce qu'il faut se faire élire ou surtout pas ? Est-ce qu'il faut changer la politique ? Est-ce que nos partis, nos institutions sont adéquats ?
Build back better, blah blah blah, green economy, blah blah blah, net zero by 2050, blah blah blah, net zero, blah 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 blah.
On commence derrière ce baffle avec des jeunes de 15, 16, 17 ans qui défilent en dansant. Ils font la grève du vendredi pour le climat, entamée par Greta Thunberg en Suède il y a 4 ans. Certains crient leur slogan, la bouche pleine de pommes. Et ces pommes bien rouges, eh bien c'est le président du Parti Socialiste lui-même qui les distribue aux manifestants sur le seuil du bâtiment du PS.
Mais on a faim, on profite, mais sans leur rien au nez, quoi, je veux dire. Hein,
ils jouent pas leur rôle.
Ils font pas grand-chose, ils font que dalle, en
c'est
fait.
C'est du greenwashing encore, on en a marre.
Ouais. J'espère qu'elles sont bio, par contre.
On dirait qu'ils vous courtisent un peu.
Ouais, un peu. Non, c'est un peu de la propagande, on est d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font, etc.
Justement, est-ce que vous trouvez que les partis politiques sont adéquats dans ce combat contre le climat ?
Justement, on en parlait à deux. On sait pas trop, parce que s'ils sont là et qu'ils font beaucoup de choses pour aussi montrer un peu qu'ils se bougent de leur côté, ok, mais si c'est juste de l'image, bah, comme c'est souvent, c'est dommage, quoi. Je trouve donc que c'est compliqué de savoir.
Je vois que vous avez un slogan écrit sur un panneau. Qu'est-ce qui est marqué ?
Il est mis un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement. Ça fait des années qu'on essaye que les choses changent par des manifestations, par des actions, etc. Et les partis bougent, mais les mesures ne sont pas là et rien ne change. Alors que de plus en plus de scientifiques disent que bah, c'est la merde.
Ces élèves viennent de Liège, de l'Athénée Léonidois, et elles ont 16 ans.
J'ai l'impression que même avec les partis comme Écolo, etc., qui c'est quand même dans leur nom, l'écologie, etc., les choses ne changent pas forcément. Quand ils sont au pouvoir, ben, dès qu'il va y avoir une petite crise ou un petit truc, et ben, ça va passer, l'écologie va passer en deuxième ou troisième plan. Et je pense que de plus en plus de gens se désintéressent de la politique et qu'il va falloir passer par autre chose, qu'il va falloir trouver d'autres actions. Et c'est en train d'arriver de plus en plus des collectivités qui se mettent ensemble et qui essayent de construire un truc en dehors de la société. Enfin, moi, je trouve ça intéressant.
Le fait est que si on veut continuer avec la démocratie, et nous, bah, dans notre école, on est vraiment pour la démocratie, tout ça, c'est très difficile de faire changer. Enfin, tout le monde a son avis et on ne peut pas imposer une idée aux autres. Et même si elle nous paraît juste à nous, cette idée, on ne peut pas l'imposer aux autres parce que ça revient à faire comme les totalitaristes, à imposer une idée, et ce n'est pas du tout ce qu'on prône avec la démocratie.
Alors comment on fait si on garde la démocratie mais qu'on veut quand même aller plus vite ?
C'est, c'est compliqué.
Participation citoyenne. Il faudrait avoir plus de place pour les participations citoyennes pour moi, genre.
Le modèle de parti politique en Belgique tel qu'il est, pour moi, il est assez dépassé. Et il faudrait revoir ça. Pour moi, il faudrait avoir un système de votation comme en Suisse, où les gens peuvent directement exprimer eux-mêmes leur avis, plutôt que de voter une fois pour les 5 ans juste pour un leader, mais vraiment toutes les grosses décisions que les gens puissent changer en fonction du sujet, et à chaque fois dire sur ce sujet je défends ça, sur ce sujet je défends ça. Les gens seraient beaucoup plus impliqués dans la politique et ça permettrait aussi aux gens de se réintéresser.
Je croise quelques manifestants qui disent se méfier des élus comme de la peste, et puis d'autres au contraire qui disent être prêts à aller sur une liste électorale. Mais il y en a beaucoup qui parlent de la politique comme d'un vieux vêtement à transformer, qui serait devenu trop raide et trop serrant pour bien bouger. Plus loin sur le trottoir, il y a Adélaïde Charlier.
Pour le moment, ça a toujours été une réussite dès que les jeunes sont.
Alors elle est en retard sur le cortège parce qu'elle passe d'interview en interview. C'est l'un des piliers du mouvement Youth for Climate en Belgique. Cette question-là, de réformer la politique, ça la tracasse depuis très longtemps. Ici, on est sur le campus de la VUB, la vraie université de Bruxelles.
Je suis aussi étudiante, c'est vrai, ici à la VUB et à UGent. Je fais un bachelier qui s'appelle Social Sciences.
Il y a des pelouses pleines d'étudiants. Il y a des pubs pour la fête du prochain vendredi. Et puis il est 13h, mais ça sent déjà la bière, ou alors ça sent encore la bière, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Mais Adélaïde Charlier, elle est très concentrée. Elle veut étudier ici le monde politique pour trouver comment le faire bouger. Et c'était déjà son but. À 17 ans, avant même d'être majeure, elle avait trouvé le moyen de passer un an dans les couloirs du Parlement européen.
Après Mareto, donc après avoir fait la grande traversée atlantique en voilier pour essayer de rejoindre la COP26, j'ai eu la chance de rejoindre le Parlement européen pour un stage avec le parti politique des Verts.
C'était quoi la première impression de ce contact avec l'univers politique à l'intérieur ?
C'est très bizarre de rentrer d'abord à l'intérieur d'un Parlement, alors que j'avais passé beaucoup d'heures en face du Parlement à crier avec mes cartons. Et je continuais à le faire, même en étant à l'intérieur du Parlement. Et on réalise tout de suite qu'au final, c'est des humains, comme vous et moi. Il y en a qui travaillent dur, il y en a qui travaillent moins dur. Ce qui se passe, je pense, beaucoup dans ces parlements et dans ces institutions politiques, c'est beaucoup d'influence, s'influencer les uns les autres, surtout dans les couloirs, autour d'un café. Et ça, c'était assez intéressant à voir, que les réunions les plus importantes n'étaient pas nécessairement les réunions planifiées, mais plutôt les cafés.
Il y a d'autres gens dans ces cafés du Parlement européen. Il y a les lobbies aussi, par exemple.
Les lobbies étaient bien présents. Je me rappelle une fois, j'avais fait une pause de midi dans un café tout près du Parlement européen. Et il y avait des parlementaires qui discutaient avec des personnes qui travaillaient dans le gaz, entre guillemets, vert, et qui leur expliquaient pourquoi c'était vraiment une solution face à l'urgence climatique. Et je me rappelais être super choquée parce qu'en fait, j'avais envie de rentrer dans la conversation et d'être là et d'en faire partie, mais socialement, c'est pas trop acceptable. Et du coup, j'ai juste tendu l'oreille et ouais, c'était un peu perturbant de voir qu'il y avait ce genre de réunion qui se déroulait.
Elle me dit qu'elle a été aussi fort perturbée par le fait qu'une vérité scientifique qui devrait faire réagir tout le monde d'un bloc est considérée par les partis comme une idéologie parmi d'autres dans laquelle on peut picorer beaucoup ou un petit peu.
C'est ça qui m'a perturbée aussi beaucoup, c'est de voir que, évidemment, il y a des compromis à faire. Et c'est ce que tous les politiciens qu'on n'a jamais rencontrés nous disent. Ils disent qu'on est face à d'autres et qu'il va falloir... que ça, c'est le meilleur qu'on peut avoir pour le moment. Et donc, oui, selon eux, en tout cas, la politique, c'est des compromis. Face aux faits scientifiques, à la dégradation de la nature et donc à la dégradation aussi de l'espèce humaine, des compromis ne peuvent pas être acceptables. Et c'est là que notre système politique ne sait pas répondre à l'urgence climatique. Et je me dis, on doit passer à l'étape supérieure de la démocratie, entre autres.
Est-ce que l'expérience au Parlement européen vous a donné envie ou au contraire, pas envie de se retrouver sur les listes à un moment ou un autre ?
Non, ça ne m'a pas du tout donné envie. Pour moi, il faut repenser d'abord le système politique et pour ça, il faut le repenser en tant que citoyen. Ça serait dommage d'envoyer comme message que s'engager en politique, c'est seulement s'engager sur une liste. Alors qu'il y a tellement de choses à faire en tant que citoyen. Et il faut plutôt demander plus d'outils. Et je pense que le monde politique a le devoir de nous les offrir même avant 2024. Et puis évidemment, après, nous en offrir de plus en plus. Mais ce que j'ai envie de faire, et ce que ça m'a donné envie en tout cas, c'était de continuer à étudier ce système politique et voir à quel point on peut le pousser encore plus loin, à quel point on peut pousser notre démocratie.
Et pourquoi pas, dit-elle, imaginer une journée par semaine où tout le monde arrêterait ses activités pour participer à des assemblées de son quartier ou de sa région et au vote de décision. Alors ce serait comme des journées de la démocratie obligatoires et elles seraient rémunérées pour que tout le monde puisse participer. Adélaïde Charlier échafaude son idée pendant que des expériences de participation citoyenne apparaissent plic-ploc. Comme celle-ci, un dimanche de pluie. C'était un jour d'hiver où rester bien au chaud en regardant une série, par exemple.
Je viens pour la radio de la FBF.
Mais au Parlement bruxellois, il y avait de la lumière et 40 jeunes de 18 à 30 ans. Ils forment ce qu'on appelle un panel citoyen, un groupe représentatif des jeunes de Bruxelles. Ils ont accepté de venir débattre deux jours de l'avenir de l'Union européenne.
Okay, bah d'accord, mais on est d'accord sur ce sujet-là. Ok, bah voilà.
C'est la première fois que les institutions européennes lançaient un tel appel à participer.
En fait, parce que le truc, c'est que tu n'auras pas ton arme déjà depuis le premier jour. En fait. Okay. Ça va. Okay. Et puis, il y a pas mal de valeurs qu'en fait l'armée peut apprendre à la société, en fait, surtout aux gens.
Si personnellement, tu penses, j'ai pas envie de faire ceci, j'ai envie de faire mes études et de continuer dans la vie.
L'idée, c'était plutôt un civique, dans le sens où on ne devait pas forcément faire militaire, mais tu pouvais, par exemple, prendre une année de...
Pour moi, c'était vraiment important de faire cette démarche-là.
Miad, 22 ans.
On l'a vu et on le voit au quotidien. Notre génération est née avec les téléphones portables, les réseaux sociaux, l'information à la minute. On entend tout, on sait ce qui se passe à l'autre bout du monde en quelques secondes. On est beaucoup plus touchés par la politique. On entend souvent que les jeunes sont apolitiques de nos jours et que les politiques ne nous intéressent plus. Non, la politique nous intéresse. C'est juste qu'elle nous intéresse d'une autre manière. On veut être sur le terrain.
Est-ce que vous pensez que par une consultation comme ça, on peut faire changer quelque chose ?
Bah si, je suis convaincu que ça commence ici.
Donc vous pourriez peser dans les décisions ?
Oui. C'est ça qu'on nous a dit ici. Sinon, si c'est pas vrai, je serais très 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 déçu d'avoir participé ici tout le week-end si ma voix elle n'était pas entendue.
Les conclusions de ces citoyens de toute l'Europe ont été mises en commun et elles sont transmises aux dirigeants européens, mais ils n'ont pas l'obligation de les suivre. Alors, quelle part de ces recommandations vont faire l'objet vraiment d'une décision ? C'est la question à 1 000 euros.
Ici au 12e.
Oui, merci.
Ces panels qui apparaissent, Tom Boller les suit de près. Tom Boller, il est économiste à l'Université libre de Bruxelles et il est membre d'un groupe d'experts qui cherche quelle gouvernance pourrait le mieux coller à l'urgence climatique.
Voilà, bonjour.
Bonjour, je vous en prie.
Son constat de départ, eh bien, c'est que le monde politique a quand même bougé en Belgique et en Europe et le climat est entré à l'agenda. Mais ce changement ne suffit pas, ajoute Tom Boller. Vu comme notre système politique s'est organisé, eh bien, il est limité face à un problème aussi vaste et profond. Et il faut des changements structurels.
La nature des problèmes qui nous occupent aujourd'hui, qu'elles soient climatiques ou biodiversité ou autres, sont très différents par rapport à toute une série d'autres problèmes que l'acteur public a essayé de gérer sur les dernières décennies. Une chose qui est très importante, je crois, très caractérisant de la problématique climatique, c'est l'impact sur les générations futures et l'impact très direct sur les générations actuelles, mais en dehors de la Belgique. Il faudrait penser structurellement une façon d'intégrer les générations futures dans nos décisions. Et ça, c'est assez compliqué.
Comment, avant de prendre une décision, est-ce qu'on pourrait entendre ces voix et ces intérêts de gens qui sont soit à des milliers de kilomètres, soit pas encore nés, qui ne naîtront que dans 200 ans, par exemple, mais qui seront impactés quand même par la décision ? Tom Boller pense qu'instaurer une participation citoyenne est une piste pour enrichir les études d'impact habituelles trop limitées.
Jusqu'à présent, par exemple, on établissait des analyses coûts-bénéfices pour comprendre quels vont être les coûts et les bénéfices de telle ou telle action future et pour pouvoir décider si c'est bien de construire telle autoroute ou plutôt investir le même budget dans les hôpitaux ou quelque chose de cet ordre-là. Mais c'est avec des pures méthodologies économiques. Or, en matière de génération future, en matière de changements globaux, en matière de changement climatique, les méthodologies économiques arrivent très très vite à leurs limites, en fait, et sont plus d'une très grande utilité. Donc là, il faut ouvrir ces systèmes-là, et une des façons de les ouvrir, c'est de les construire de façon participative et vraiment de faire amener des conclusions de ces processus d'évaluation qui soient beaucoup plus pluriels. et les panels de citoyens sont ces formes de décision-là ou de préparation de décision-là, il faut les réinventer, je crois, et surtout, il faut leur donner une assise institutionnelle. Parce que pour l'instant, ce qui se passe, c'est qu'on a plic-ploc des panels de citoyens où les citoyens sont invités à co-imaginer le monde du demain, mais ce sont des initiatives qui sont totalement disparates, en fait, et qui n'ont aucune force institutionnelle. Et donc, on peut aussi faire des conclusions qui émergent de ces cénacles-là, ce qu'on veut. Au pire des cas, les conclusions d'un panel de citoyens ou quelque chose de cet ordre-là vont être mis sur papier, distribués à un moment donné dans un parlement XY et puis ça va atterrir dans un tiroir.
Est-ce que plus de participation citoyenne mènerait effectivement à plus d'action pour le climat? Et puis comment l'organiser et lui donner un vrai impact? Avant de participer de nouvelles façons peut-être à l'avenir, les jeunes en Belgique pourront bientôt se faire entendre en plus grand nombre par le vote traditionnel. Ceux qui le veulent pourront voter dès 16 ans aux prochaines élections européennes en 2024 et se faire élire dès 18 ans et plus 21. Est-ce que les partis leur donneront de belles places sur les listes et seront bien à l'écoute de leurs idées, ou est-ce que ce sera un moment de blablabla?
Après nous, les mouches, après nous.
C'était un podcast RTBF Euranet Plus, réalisé par
Myriam Ball
et Christophe Bernard. Une série à découvrir sur Ovio, rtbf.be ou votre plateforme de podcast préférée.
Mieux comprendre l'Europe avec Euranet Plus, le premier réseau d'information européenne.